Le Radio Club, hashtag en direct de la chambre de Bonne depuis Paris, place Vendôme. Vous écoutez les podcasts avec
Philippe Thorne
et Arthur Legge et nous sommes très heureux de vous présenter ce podcast spécial DJ LBR.
Le Radio Club, on peut
Philippe Thorne.
Arthur Legge.
Club.
Madame, mademoiselle, monsieur, le Radio Club, c'est parti. Bonjour à tous. On est très heureux de vous retrouver. Philippe Thorne à ma gauche. Bonjour Philippe Thorne, comment ça va?
Salut Arthur.
Eh ben écoute,
il va bien?
Il va très bien.
J'aime bien ton short.
C'est vrai?
Ouais, j'aime bien tes choses aussi.
Petit short bleu, chaussures rouges, Philippe Thorne, short noir, Converse.
Converse, tu peux
Converse
le dire.
Bleu marine.
Donne la marque.
Et t-shirt blanc marqué bonjour. Voilà. Et moi, t-shirt noir. Bon, voilà. Trêve de plaisanterie, on est là, mais surtout, on n'est pas tout seul.
Et non.
Parce qu'il est là, ça y est, il est arrivé, bronzé, bonjour. T-shirt blanc, pantalon bleu marine.
Là, je pense qu'il sort de chez Colette.
De chez Colette.
Bah, il a été faire du shopping hier.
C'est dimanche matin, sport,
ouais,
shopping. Madame, mademoiselle, monsieur, nous sommes très honorés, très heureux de recevoir aujourd'hui DJ LBR.
Bonjour. On peut dire bonjour Bertrand.
Bonjour Bertrand.
On peut tout dire aujourd'hui. On se lâche.
Pas de problème.
Comment ça va bien?
Ben ça va, écoute, un temps formidable, une belle invitation ici et de se retrouver un peu à la route dans une chambre de bonne me rappelle des bons et des mauvais souvenirs, mais ça fait partie
Ne
gardons que les bons et c'est les débuts de plein de choses et un bel aboutissement, un beau chemin.
Et alors en plus, il faut le dire, hein, la chambre de bonne, il n'y a pas de mur, c'est que des vinyles, que des CD, c'est rempli de musique. Donc pendant à peu près 15-20 minutes, j'explique le principe de l'émission pour nos auditeurs et pour toi Bertrand. Et bien pendant 15-20 minutes, on va essayer de te découvrir, aller savoir un peu ce que t'as fait, comment tu l'as fait et quel est l'avenir en fait. Une fois que ça sera fait, on démarre le ping-pong by le Radio Club.
D'accord.
Tu connais le principe, ouais. T'as amené tes disques, ils sont là, ils sont chargés dans le Mac.
Et j'en ai d'autres au cas où.
J'ai vu qu'il y avait, des trucs très lourds quand même.
J'ai essayé de faire chronologiquement le chemin dans le hip-hop que j'ai pu faire, en prenant pas toujours que les choses faciles parce que tout le monde les connaît, donc c'est pas la peine de parler d'un Herbie Hancock, on le sait, c'est sorti, c'est fait, et d'essayer un peu sur les chemins de côté et de remonter comme ça à travers les années, de raconter un peu l'histoire de ce que j'ai fait et ce que j'ai pu essayer de faire. Et voilà.
C'est ce qu'on va voir donc dans le ping-pong by le Radio Club d'ici quelques petites minutes.
Le Radio Club
DJ LBR, qui es-tu?
Oh, c'est compliqué. Je fais pas beaucoup de, tu vois, par exemple, je fais pas de selfie, je fais pas de trucs comme ça. J'essaye d'être assez réservé parce que je trouve que les artistes sont, hélas, très égocentriques en général et ça me fait toujours un peu peur de tomber dans ce piège-là. Après, qui suis-je? Je suis le résultat d'un rêve de gamin de 13 ans qui était derrière sa radio, qui était derrière les stands de disques pour acheter des 45 tours et qui a rêvé derrière les FM à écouter des remix, le DMC, les machins, Marc
Scalia. C'est quoi le DMC?
Le Disco Mix Club, qui était un championnat DJ, et quand j'avais à partir de l'âge de 8-9 ans, bon, il y avait les disques des parents et la radio et la pop de l'époque, et puis il y a eu une émission qui a changé ma vie, un peu comme certaines personnes qui deviennent religieuses en ayant vu la Vierge, pour prendre une expression française. J'ai vu Grandmaster Flash et Bambata dans une émission qui s'appelait Les Rendez-vous du Samedi, qui était présentée par Alain Manneval à l'époque, en 81, et on était une bande de copains dans un petit lotissement, et on est sortis, on a dit t'as regardé TF1, t'as vu les mecs qui tournent sur la tête, ils font des trucs avec le micro et tout, et on n'avait aucune information. Je vivais en banlieue dans le 95, j'étais gamin, j'étais jeune, il y avait les FM, Michael Jackson passait 20 fois par jour. On essayait de savoir qu'est-ce qui se passait, c'était un plateau repeint à l'époque avec les disques AZ, et vraiment quand j'ai vu ça, j'ai eu un choc, je sais pas, culturel ou émotionnel, et vraiment je me suis dit, voilà, ma vie c'est ça. Et j'ai tout de suite acheté un K-Way, j'ai pas compris qu'il fallait mettre un carton en dessous pour tourner sur le dos, je me suis fait mal, enfin que des conneries de gamin de 11 ans, et puis j'ai jamais rien lâché, et j'ai essayé par les gens que j'ai aimés et que j'ai respecté et qui m'ont fait rêver, de pouvoir moi aussi mettre ma pierre à l'édifice, parce que c'est le but de ce mouvement musical avec la Zulu Nation, et après d'aboutir à mes rêves, c'est-à-dire de rencontrer les gens qui m'avaient fait rêver et à mon tour d'essayer de leur passer le respect, le témoin, et voilà.
Et alors tu parlais de la musique de papa-maman, c'est quoi qui tournait à la maison?
Alors j'avais une chance absolue, mon père adorait le hit parade d'Europe 1, donc en fait il était branché avec, je sais plus comment il s'appelait, c'est pas Jean-Loup Lafont, mais je suis pas sûr, et en fait on écoutait le hit parade boîte sans arrêt. Et après, quand les FM sont arrivés, donc plus tard, c'était énergie tout le temps. Donc moi, j'ai grandi avec quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et de tendresse parce qu'il a bercé mon adolescence, c'est Marc Scalia, mm-hmm. avec le Star Match, mm-hmm. où je demandais même à mon père, de quand j'étais gamin, papa, s'il te plaît, accélère avec l'homme, parce qu'on rentrait tard le soir, il bossait tard, pour pouvoir faire la cassette pour enregistrer le Megamix à 20h. Ouais. Donc je lui disais, s'il te plaît, roule vite. Alors il traçait et tout ça, machin. Et j'arrivais chez moi, je pouvais faire ma cassette, il me prenait pour un fou. Et donc, non, mon père écoutait beaucoup de pop. Et puis, il y aura un clin d'œil tout à l'heure à, comme ça, la musique de mon enfance. Après, moi, je suis pas né dans une famille qui écoutait de la soul music, du jazz et tu
Otis
vois.
Non,
ils écoutaient de tout. Voilà. Mais de façon intelligente, quand j'étais gamin, je disais des trucs, je disais, ah, ça, c'est pas bien. Et il me disait toujours, ne dis pas que c'est pas bien. Dis que ça ne te convient pas, dis que tu n'aimes pas, mais dis pas que c'est pas bien. Et j'ai appris ça. Et voilà, c'était la vision un peu de.
T'as appris à faire la différence entre les choses qui existaient que tu aimais et puis celles que t'aimais pas, mais fallait pas dévaloriser. Quoi.
Exactement. Et il m'a dit, ça te plaît pas juste, mais dis pas que c'est pas bien. Et voilà comment j'ai été élevé au hit parade, tout simplement. Après, je parle pas beaucoup de ça, mais mon père, il kiffait Pass the Dutchie de Musical Youth.
Ah oui.
Ah, mais genre, mais comme un dingue, quoi. Il écoutait plus fort que moi, quoi.
C'est un truc qu'il avait découvert, le Pass de Dutch, ou c'est toi?
Ouais, non, c'est lui. Il te parade, il fait, t'as écouté ce truc-là, bam, à fond la caisse, ah, j'adore et tout. Ouais. Donc en fait, c'était une éducation quand même relativement pop, hein. C'était pas pur black et tout ça, mais c'était une pop et puis plutôt funky, quoi. C'était pas new wave, quoi. Mmh. Voilà, quoi. Pop, la pop un peu plus funky et tout ça, quoi. Donc voilà comment j'ai découvert un peu la musique et donc le fameux truc de TF1.
Ouais, de toute façon, voilà. On se construit tous avec ce qu'on nous donne au départ et puis
bien
après.
Sûr, ouais, tu peux pas être. Né avant ta grand-mère, c'est ce que je dis toujours, tu vois. Il y a des mecs, des fois, tu les entends, ils ont écouté de la soul depuis l'âge de 2 ans, ils ont 2 parents de bretons. Je n'ai rien contre les bretons, je n'ai rien contre la soul, mais des fois, tu peux plus écouter de la cornemuse à Paimpol que Otis Redding.
Oui,
quoi.
Mais même avec ça, on peut se construire et arriver.
Et être curieux. Et être exactement. Curieux, c'est la curiosité qui fait avancer les choses.
On va faire le premier stop musical. Ouais. Tu t'es dit, tu prépares plein de musique, machin et tout ça. Et là, dans l'idée, c'était de dire, bah tiens, quel est le premier morceau que tu veux passer quand on te présente.
Déjà, sachez quand même que pour moi, qui ai beaucoup de disques et beaucoup de... c'est un exercice très très compliqué. Donc là, c'est un parti pris, c'est celui-là dans 5 minutes, ça aurait pu être un autre dans 10. Hein. Donc qu'on soit bien d'accord.
Et le choix des morceaux que tu vas passer aujourd'hui, ouais. C'est aussi une part de toi-même.
Ouais, c'est oui.
Sans raconter. Ouais. Ce que tu ressens, ouais. Est-ce que tu es au fond de toi, mmh. La musique non, que tu vas jouer, de... c'est une façon ouais. Pour les gens de te découvrir aussi un peu plus intimement, ouais. Sans
vais,
en faire
non,
trop.
Non, je vais essayer de jouer ça. Le jeu quand même.
Voilà,
même
c'est pour si... ça qu'on t'a attaché les mains. Voilà. Tu joues pas. Voilà. Tu parles.
Je parle. Et écoute, ça m'est venu naturellement dans la liste A Tribe Called Quest avec Bonita Applebaum parce que j'ai commencé vraiment DJ en 85. J'aurais pas dû le dire. Mais
pourquoi?
Mais j'étais gamin, on faisait des booms dans les garages.
Bah oui, mais c'est comme ça que tu commences. Nous aussi, on a commencé comme ça.
Donc boom dans les garage et tout, mais en 91 c'est vraiment là où je commence à passer entre guillemets pro, même à partir de 88, c'est l'année en 91 où je deviens vice champion de France au DMC justement.
Bah c'est pas rien quand même, on fera un petit aparté. Non mais c'est vachement bien important. Mais ça veut dire qu'il y a une technique, ça veut dire que tu sais faire des choses.
Il a un CV, hein.
On en parlera juste après le Tribe Called Quest.
Le Tribe Called Quest, voilà, c'est les membres de la Zulu Nation, c'est des très grands rappeurs, le flow, et c'est super beau et il y a un sample magnifique.
Donc on parlera du DMC, ce que t'as remporté, et puis tu nous expliqueras un peu la Zulu Nation parce
oui.
Que
oui.
Voilà.
Mais oui,
bien
oui,
sûr.
Oui, oui. Mais
allez.
Oui.
Authority. Chairman of the board, the chief of affections. You got my eyes to sway in your direction. Hey, you're like a hip hop song, you know. Bonita Applebaum, you gotta put me on. Bonita Applebaum. Bonita Applebaum, you gotta put me on. Bonita Applebaum, I said you gotta put me on. things some brothers don't. If only you could see through your elaborate eyes. Only you and me, hun, the love never dies. Satisfaction, I have the right tactics. And if you need them, I got crazy prophylactics. So far, I hope you like rap songs. Gotta put me on. Bonita apple bum, you gotta put me on. Bonita apple bum, I said you gotta put me on. Bonita apple bum, you gotta put me on. Bonita apple bum, I said you gotta put me on. Bonita apple bum, you gotta put me on. Bonita apple bum, I said you gotta put me on. Bonita apple bum, you gotta put me on. Bonita, Bonita, Bonita.
Album A Tribe Called Quest, le premier morceau choisi par DJ LBR, le Radio Club. On est là avec vous si vous êtes en train de somnoler et sortir de la sieste tranquillement. Eh ben écoutez le Radio Club, on est là, on s'occupe de tout, l'ambiance musicale, c'est avec DJ LBR et Philippe Thorne.
Bertrand, c'était quoi ce putain de sample? Tu te souviens ou pas? On va le chercher, on le dira tout à l'heure. Parce que ça me dit quelque chose.
Ah oui. C'était pas Fujis.
Ah aussi, qu'ils l'ont repris après, mais c'est le sample original de Soul. Tribe Called Quest, si tu veux, ce qui est intéressant dans Tribe Called Quest quand ils sont arrivés, et puis un peu plus tôt, on en parlera tout à l'heure en 88, mais c'est vraiment l'avènement du sample qui avait. Aujourd'hui, quand on parle de ça, les gens ils savent pas. Ils se disent ouais, c'est normal, musique par ordinateur. Mais ça venait d'arriver, c'était tout frais. Et je voyais hier Manœuvre à la télé, le roi du rock, qui à l'époque faisait des critiques dans Rock and Folk, comme quoi Public Enemy c'était pas de la musique, parce que c'était samplé. Comme quoi on peut dire des conneries.
Et puis changer d'avis. C'était pas rock.
Non, c'est pas que c'était pas rock, mais je pense que j'ai toujours eu. C'est pas un règlement de compte. À l'époque, quand on défendait cette musique-là, si tu veux, il y avait des sampleurs. Les gens, les musiciens, les mecs du rock disaient ouais, c'est pas de la musique. Et moi, je leur disais, et les gars, dans les années 60, vous faisiez que des reprises de tubes américains. Je pense que vous avez rien inventé non plus. Johnny, il a commencé comme ça. Tout le monde a commencé comme ça.
C'était des samples de 3 minutes qui faisaient.
Ouais, non, mais c'est vrai. Et Tribe Called Quest, je pense qu'ils ont vraiment magnifié avec De La Soul, avec tout le Native Tongue.
Ils ont magnifié un petit peu. Ils ont magnifié. C'est devenu quand même.
Exactement.
Une partie intégrante de la production.
Avec un bout de truc, ils en ont fait autre chose et ça reste très artistique, très Cali. Enfin, Cali d'ailleurs. La qualité en art, ça n'existe pas. C'est totalement abstrait.
C'est abstrait, ouais.
Ça, c'est clair. Donc voilà, ils ont fait autre chose. C'est en plus à écouter.
Voilà, c'est les pieds dans l'eau comme
dit Philippe.
Comme nous, presque. Ouais. Hein, que la piscine est juste derrière. Non,
oui.
Ah non, c'est la baignoire de la voisine. DMC, on revient sur ton. On parlait des DMC tout à l'heure. T'as gagné le championnat.
La vice-champion de France. Deuxième derrière Jimmy J. C'était Jimmy J qui avait gagné.
Jimmy J qui était le producteur de.
De Solar.
MC Solar. MC Solar. Voilà, tout à fait.
Et d'ailleurs, je devais produire à l'époque, c'était moi qui devais produire le slow, là, Caroline.
Et pourquoi tu l'as pas fait?
Mais j'avais pas le temps.
Mais quel couillon.
Ouais, je te jure.
Franchement. Ah, l'histoire de fou.
C'est vrai. L'original, il a été écrit et composé sur un disque de Kwame, qui était un rappeur américain. Il avait le Maxi 45. Il avait écrit, en fait, Caroline là-dessus. Et j'ai quelque part la démo originale sur Kwame. Je vais le faire et avec DJ ZK à l'époque. Et ça s'est pas fait. Et puis c'est très bien que ce soit fait avec Jimmy Jones. C'était magnifique, quoi.
Donc t'arrives deuxième. Ouais. Comment ça s'est passé en deux mots? T'as bossé comme un dingue pendant 6 mois auparavant?
Ouais. L'anecdote, j'avais une voisine au-dessus de chez moi qui avait 80 ans. Et je répétais à chaque sortie de cours mon set et tout ça. Et un jour, elle vient me voir, elle me fait: bon, franchement, vous écoutez la musique fort. Vous vous rendez compte, monsieur, que maintenant, même quand vous vous trompez, je m'en rends compte. Tellement elle connaissait le set par cœur. Je te jure que c'est vrai. Je peux pas l'inventer.
Et c'était ton invité d'honneur, porte fétiche.
La pauvre, non. Mais tu sais, le soir du championnat, on a fait ça au Charivari, qui est une boîte qui est fermée maintenant. Et je suis allé faire un mix le soir de mon championnat sur Sky à l'époque avec Rudy.
Ah oui.
Qui m'invitait et je mixais souvent pour Rudy sur Sky Funk. Et c'était en 80. C'était même pas en 91, c'était même avant, c'était en 89.
Peut-être
arrêter les dates.
Il faut les assumer, tu sais. Là.
C'est pas grave.
T'as bien raison.
Voilà. C'est pas grave. Tout va
donc,
bien.
Donc le DMC, ouais, voilà, c'était à l'époque pour les DJ, c'était vraiment le
la référence.
Quoi, la référence, ouais. Ouais. Il fallait vraiment y être et mettre son blaze là-dedans.
Et derrière, il y a eu du business, des soirées. soirées qui sont venues.
Tout de suite parce que j'avais à peine 18 ans et il fallait bosser à l'école avant d'avoir le droit de sortir. Mais il y a eu une émission de radio tout de suite sur Radio Star à l'époque, qui est une radio qui n'existe plus en banlieue nord, avant d'arriver sur Paris et tout ça. Mmh. Et j'ai tout de suite eu une émission de radio grâce à ça. Et puis tout doucement, j'ai en effet eu des soirées plus dans le 95. C'est les débuts, quoi, disco mobile, tu vois.
T'as mis ta graine là.
Voilà, ouais, c'était deux petits bouts de fil, un ampli qui surchauffait parce que tu mettais des enceintes de 500 watts pour un ampli de 50. Enfin, tu vois, les conneries, tout qui pétait, feu d'artifice et tout. Enfin, voilà. Et j'ai appris sur le tas, quoi, comme ça, quoi. J'ai appris, il fallait commencer par le début, de toute façon. Donc,
Et t'avais un mentor, t'avais quelqu'un que t'aimais bien, qui te conseillait.
Il y a un gars.
Il
n'y
avait pas grand monde, ceci dit,
non,
avant.
Mais... Non, mais il y avait Dynasty, que je connaissais, parce que je l'avais croisé une fois au Virgin à l'époque. Je croise Dynasty, je fais, wow, ouais, mais tu vois, genre, j'avais 16 ans, on discute et tout ça. Et puis, il y avait un DJ quand même dans une boîte à côté de, dans le 95 où je bossais, qui s'appelle Didier, à qui je fais un petit coucou, parce que je pense qu'il va nous écouter. Qui me laissait les platines, parce que je sortais tôt en boîte, mais je suis sorti en boîte à partir de l'âge de 14 ans, et qui me laissait les débuts de soirée, en fait.
Ah oui.
Donc je faisais ça.
Tu faisais les before.
Ouais, les before. Et puis RLP, évidemment.
Robert, monsieur Robert.
Sur Radio 7, qui a fait toutes mes oreilles. Donc voilà, c'est vraiment eux, les. Voilà, RLP, c'est. Voilà, j'ai fait
une bonne base.
Voilà, j'aurais pu rater mes études à cause de lui, mais ça a été. Parce que j'écoutais jusqu'à 1h du matin, cassette, à écouter. Il y avait
Smith. J'avais mal au pouce, moi.
Ouais, c'était Smith et Wesson, Célarier, Clémentine Célarier.
C'était énorme.
Sissi et tout ça, quoi. Ouais, les gens savent pas qui c'est.
Nono, le petit robot. C'était énorme, quand même.
Non, mais c'était une très belle période. Et surtout, c'était une période où on faisait de la radio un peu comme aujourd'hui. Enfin, freestyle, quoi. Tu faisais ce que tu voulais, les gens racontaient, les gens jouaient ce qu'ils avaient envie. Et si t'avais des gens derrière les platines qui avaient du goût, tu t'apprenais des choses formidables.
Comme tu dis, c'est un peu le Radio Club. Voilà. On aime la radio, on essaye de le faire bien, mais on prend le temps, on invite les gens qu'on aime.
C'est un peu le mix, c'est un peu ça qu'on veut faire, c'est la philosophie. C'est-à-dire, on pense à l'ancienne, mais on utilise les nouveaux outils, quoi.
C'est parfait.
Et parce que c'est tout.
Ouais, c'est même pas penser à l'ancienne, c'est penser liberté, c'est penser. Les gens, ils viennent avec ce qu'ils ont à donner. Nous, c'est ça qui nous intéresse. Et bon, voilà, c'est aussi ça, c'est l'échange, c'est très peu de contraintes. Il y en a quand même, parce qu'on vit dans un monde où il y en a. Mais c'est essayer de partager ce moment-là ensemble. Voilà, le Radio Club, c'est ça. Et tu parlais des études tout à l'heure, t'as fait quoi comme études?
Je suis allé jusqu'au BTS, pas très loin, mais j'ai fait un BTS de com, somme toute classique.
Ça t'a servi?
Un petit peu pour rentrer dans les. Après, pour pouvoir communiquer, et puis par rapport au métier que je voulais faire dans la musique, c'était mieux d'avoir un BTS
c'était
de com.
C'était quoi l'idée de métier dans la musique que t'avais à cette époque-là? T'as 17 ans,
DJ déjà. En fait, honnêtement, j'ai fait DJ pour une raison économique.
C'est pour les gonzesses.
Non, mais pas du tout. J'avais pas de thunes du tout et on m'en donnait pas surtout. Et il fallait que j'achète des disques. J'étais un vrai vinyle junkie. Et la seule façon pour moi de pouvoir acheter des disques, d'aller chez Disco Parnage sans disque et tout ça, m'acheter des disques, c'était de pouvoir faire des petites soirées, gagner à l'époque 50 francs, tu vois, et de pouvoir dire j'ai 50 balles, je vais acheter soit un maxi neuf, soit deux maxi.
C'était hyper important à l'époque.
Disco Parnasse, donc c'était un disquaire qui était en dessous la tour Montparnasse. Et qui vendait
Michel.
Et Méchant Disque, c'était sur les Champs-Élysées, au niveau de quelle galerie
64.
Et donc c'était c'était une institution parce qu'il y a beaucoup de DJ qui allaient acheter.
Tout le monde se retrouvait là-bas, c'est ça qui était intéressant. Tu te retrouvais là-bas et tu pouvais échanger avec les gens et tout ça. Et il y avait un autre magasin où j'allais parce que le vendeur était formidable. Et c'est très drôle parce que 5 ans ou 10 ans après, on s'en est rendu compte. C'était le magasin où Cut allait parce qu'il habitait. Ma mère travaillait.
Cut Killer.
Et c'était le Gibergen de la Porte Saint-Denis.
Ah oui?
Et en fait, on allait tous les deux là-bas. Tu vois, ma mère me donnait pareil, c'était les menus quick à 25 balles. Moi, je prenais 25 balles.
Il y avait un autre truc en
j'allais
banlieue.
J'allais acheter mon maxi et voilà.
Je me souviens, l'autre fois, on en a parlé, mais on n'a pas parlé de ce magasin de disques, mais il y avait un truc en banlieue qui s'appelait Caramel.
Caramel, c'était pas en banlieue. Non, c'était rue de l'Échiquier à Paris.
C'était à Paris.
À Paris.
Caramel. Qui était aussi une grosse.
Bettino. Et Edouard. Pareil, j'allais ouvrir les cartons là-bas aussi. Ah ouais, mais on était des vrais vinyle junkies, quoi. On faisait les cartons. Qui arrivait du Canada et tout. Et pendant les salons aussi, il y avait DJ Bad Benny, celui qui a formé Dynasty qui était là, et DJ Joe, enfin tous les, pour moi les grands. Et
l'amour de la musique.
Ouais, c'est une passion tout simplement.
Ouais, c'est
après on peut faire les vieux briscards, mais c'est une passion. Et la passion, même si aujourd'hui on va parler d'un parcours et tout ça, le disque qui m'intéresse, c'est celui qui va sortir demain matin, moi. Voilà, je suis comme ça. Donc c'est toujours la nouveauté, qu'est-ce qui sort et tout ça. Et après, tout ce qui est acquis est acquis, on fait avec, c'est ce qui nous construit. Mais ce qui est intéressant, c'est d'être curieux et de toujours chercher.
On a besoin de toute façon de regarder dans le rétroviseur pour avancer.
Complètement.
Ça fait partie de la vie. Voilà. Donc quand je dis à l'ancienne tout à l'heure, c'était un peu toute cette culture qu'on a connue, ces tendances. Et ça, ça construit son homme.
Complètement, c'est un background que tu as besoin de connaître, une certaine maturité pour aimer certains titres.
Il y a des
choses que tu n'aimes pas quand tu as 18 ans. Il y a des choses que tu évolues tout simplement. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est la curiosité. Aujourd'hui, je vois les DJ avec qui je parle parce que je suis souvent dans des soirées où il y a des mecs de la jeune génération qui sont avec moi. Ils sont très curieux. Moi, je le reste, ils m'apprennent des choses, je leur apprends des trucs et on s'échange les disques. Et ça, c'est vraiment enrichissant. C'est ce qui manque un peu quand on se retrouvait dans les magasins de disques. Le mardi, tu avais les arrivages d'import. Tu savais que tu allais croiser tout le monde. Tu vois, tout le monde venait entre 6 et 7 heures, tout le monde venait prendre ses disques et tout. Moi, pour les bains, machin, et nana. Et ça manque parce que, tu peux t'envoyer un message Facebook, mais ça devient. Chacun est de son côté. Et ça par contre, c'est quelque chose qui nous ont enlevé, je pense, avec Internet. Il y a deux, trois petits trucs comme ça qui ont évolué de façon positive. Et deux,
en même temps, le il est tellement impersonnel qu'on sait pas qui, mais de toute façon, c'est à nous à créer ces rencontres. Les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est de croiser d'autres personnes. C'est de l'humain, rencontre un humain, et c'est ça qu'ils ont besoin. Parce que toute la journée derrière les machines, c'est super sympa, mais le problème, c'est que des machines, ça rigole pas.
Moi, je parle à mon ordi quand même, j'en suis à lui parler maintenant.
C'est vrai?
Non, mais c'est bien.
Donc là c'est, il va falloir consulter.
Des fois, je lui parle. Je sais même quand est-ce qu'il va bugger 5 minutes avant, tu vois, pour te dire à quel point je le connais bien. Tu vois.
Ah oui, il y a une certaine relation intime.
Il y a Pommes tout de suite, là, je fais toi, tu vas me faire une connerie dans 3 minutes, ça loupe pas, tu sais. C'est limite, il va pas me faire un clin d'œil. Donc, oui, non, il faut savoir évoluer et rencontrer des gens formidables. Je peux vous montrer un truc de fou sur un ordinateur?
Mais tu peux.
Regarde, quand je pose mon téléphone sur mon ordi, regarde, il s'éteint. Est-ce que vous trouvez ça fou?
C'est les vibes.
Non, mais c'est.
C'est-à-dire que tu prends ton téléphone, tu le poses sur ton ordinateur portable de marque Apple.
C'est-à-dire qu'il ne l'éteint pas comme tout le monde. Il pose son téléphone et
tu le poses à droite du joypad là, et le truc s'éteint.
Voilà.
Et à un moment donné, l'ordi s'éteint. J'ai eu ça l'autre fois en soirée.
Attends, j'ai essayé avec combien?
Et je sais pas pourquoi. Voilà, regarde, il s'éteint. T'as vu?
C'est fou.
Et quand
ça,
je l'enlève,
truc de malade.
Il s'éteint aussi ou pas?
Je crois que c'est en option chez Apple.
C'est un truc de dingue.
Attends, j'ai enlevé la coque. Ça se trouve,
on se raconte notre vie, on peut avancer aussi.
Non, non, mais c'est très sympa.
C'est intéressant, attends.
Non, moi ça le fait pas.
Moi j'ai vraiment un ordi de ouf.
Leradioclub.com.
Le Radio Club.
Le bac en poche, le BTS com en poche, DJ la semaine, le week-end,
le DMC,
t'arrives...
Les premières radios, les premiers disques.
C'est quoi ton premier job dans la musique exactement, dans l'industrie musicale?
La promo club, voilà, je distribuais les vinyles pour les DJ en fait, parce que j'ai toujours essayé de joindre l'utile à l'agréable. Donc je me suis dit, j'aime les vinyles, je suis un malade de vinyles, on va travailler là où il y en a. simplement, tant qu'à faire.
Alors c'est quoi son premier job dans l'industrie musicale?
Bah, je viens de te le dire si tu m'écoutais.
J'ai envoyé un mail.
Je te taquine.
La promo,
c'est la promo club, la promo
place,
DJ,
place des Vosges.
Place des Vosges, label qui s'appelle Virgin.
Un petit label,
de Virgin. Et avec une période magnifique où il y avait pas mal de choses à construire et où j'étais en contact avec tous les DJ, je crois, de France et de Navarre.
Tous les grands producteurs.
Tout le monde, j'ai vu à l'époque Arthur Baker, j'ai vu Frankie Knuckles aussi. Frankie Knuckles, ça c'était drôle. Il était filou, qu'on va dire. Le Frankie Knuckles m'a testé, était marrant. Plein de gens comme ça, plus tous les DJ français qui passaient et tout ça. Et ça a fait des bonnes vibes, c'était intéressant. Et puis au moins, je voulais connaître l'envers du décor aussi, quoi. Parce que à force d'acheter des disques, c'est bien, mais tu voulais savoir comment ils étaient faits, conçus, même fabriqués. Et je pense que je suis allé.
De l'autre côté du miroir.
Ah ouais. Et puis j'ai été de haut en bas du nord au sud et de l'est à l'ouest. Donc maintenant je connais
le processus
de A à Z.
Quel est l'artiste qui t'a le plus impressionné en studio, avec les machines, avec son art?
Il y en a pas mal. En prod, j'ai eu la chance de faire une séance de studio avec M.O.P. qui est un groupe de rap de New York. Et l'ingénieur du son, c'est Sticky, le MC de ce groupe, qui est impressionnant au niveau de la puissance, de la compression quand il mixe, c'est impressionnant. Après, au niveau des voix, je vais jeter un pavé dans la mare. En France, au niveau des voix, il y a China et il y a Larousseau.
D'accord.
T'as vu le blond?
Ouais, il y a eu un blond.
Non, mais il faut qu'on s'habitue au truc.
Mais la tarte dans la gueule, je t'explique. Elle, après, les Français.
Mais je crois qu'elle continue, Larousseau.
Elle vit plus loin maintenant et elle fait sa vie. Mais la technique vocale de Larousseau, elle est dans le top, je pense, dans le top 20 français, quoi. Encore aujourd'hui. China, c'est impressionnant quand elle doublait ses voix. T'as pas besoin de recaler les voix et tout. Enfin, c'est une machine de chant. On a fait Alfonso Hunter, on a fait plein de gens comme ça. Ce qui est agréable, c'est plus la discussion, la relation. Après, tu sais, le travail en studio, il y a des fois, le mec est fatigué ou tu reprends et machin et tout ça. Impressionnant aussi à Nova, c'était Zané qui nous a fait le Mister DJ. Elles ont fait trois fois.
Tu t'en rappelles?
une fois pour Cut, une fois pour moi, une fois pour Abdel.
Non.
Pas une fois, c'est-à-dire en une prise, elles se sont plantées et t'as l'impression que c'est le disque.
J'ai ramené ça parce que nous faisions une émission déjà en 84. Si je me trompe pas, sur Skyrock, on faisait la Max Party.
Bah oui.
Ah oui.
Et on avait joué ce titre-là. On devait être dans les premiers à le jouer en France. Et Mister DJ,
avec
peut-être que Nova nous avait précédé, mais peu importe.
Nightcrawlers à l'époque.
Ouais. Mmh.
Il y avait le Nightcrawlers et il y avait le Janet.
On s'est fait virer.
Ah oui.
Un manque d'audience, peut-être.
Ah, peut-être.
Non.
On manque de goût.
Ça, tu sais, entre le goût et l'audience, des fois.
Un autre pavé dans la main. Ça va être la journée.
Et bim, quand je faisais Sky Funk avec Rudy, quand j'ai ramené la première fois Pain in Full avec Eric Ben Rakim, il m'a regardé, il m'a dit non mais là
ça va pas,
je peux pas lui dire ça moi. Je fais mais vas-y, non mais c'est Sky Funk, je peux pas. Je dis, on sent pas les couilles, il 2h du matin.
Dans tout ce titre, il y a tout quoi.
Mais il avait, et franchement, il avait peur de prendre le coup de fil du lendemain que tu connais par cœur, par notre ami là.
Bah oui.
Mais voilà, bon après voilà, il s'est passé parce que c'est devenu un tube. Je crois même qu'il est même rentré en playlist après
à la radio.
Le Pain in Full.
Ouais, c'est ça.
Mais ouais, je ramenais des trucs comme ça.
Truc de fou, quoi.
Ouais, bah c'était les imports du moment. Il fallait avoir le bon mix, le bon machin. Voilà, quoi.
C'était ton coup de cœur de la semaine à l'époque.
Exactement.
On parlait de la Zulu Nation tout à l'heure. Tu peux nous en dire deux mots, nous expliquer exactement.
Voilà, avec des mots faciles.
Ouais,
avec
facilement. Qu'est-ce que c'est que la Zulu Nation? On en entend parler.
Qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que c'était? Mais qu'est-ce que c'est? En fait, pour te faire très très vite, en 1973, il y a un mec qui s'appelle Afrika Bambaataa qui est dans une soirée. Il y a un de ses potes qui se fait allumer, qui décède. Il se dit, tiens, c'est dommage, l'énergie, elle est négative. Les gens seront tués pour rien. Est-ce que ce serait pas mieux d'essayer de se battre à travers la danse, les micros, les graffitis? C'est une évolution qui s'est faite. Je dirais l'idée est arrivée en 73. Elle a vraiment été magnifiée dans les années 77-78. Et on va dire le haut du pavé de la culture hip-hop. C'est-à-dire que c'est que des choses positives. C'est essayer de pacifier le plus possible les gangs ou les embrouilles, les choses mauvaises et tout ça. Et le leitmotiv, c'est de transformer l'énergie négative en énergie
en
positive.
Ouais.
Voilà. Bon, il s'avère, pour être très honnête, que moi j'ai rencontré Bambaataa 3-4 fois et que honnêtement, gamin ayant une vie un peu compliquée, si j'avais pas eu
ce genre de rencontre,
cette vigie, ce genre de rencontre, mais c'est surtout cette façon de penser là, je pense que je serais pas là aujourd'hui. Bon, il s'avère que 30 ans après, Bambaataa a eu des dossiers de sales dossiers de pédophilie et tout ça sur le dos. J'en parle parce que c'est quelque chose qui m'a
t'a déçu.
Ouais, ça m'a déçu, ça m'a touché, ça m'a fait mal au cœur parce que ce mec m'a sauvé de quelque chose de mal. Et ce mec faisait des choses mal. Et c'est très gênant pour quelqu'un, tu vois, quand je t'en parle, j'ai la chair de poule. Mais c'est très gênant pour un gamin qui s'est construit là-dessus de savoir que le mentor, c'était pas quelqu'un obligatoirement de très très bien. Et je le dis avec le recul et puis la plus grande des clartés. Il a ces soucis-là qui sont, pour moi, honnêtement, inexcusables, qui peuvent être explicables sur un certain point. Un, il était jeune. De deux, le milieu des gangs et tout ça est un milieu très très carcéral, donc on connaît un peu éventuellement aux États-Unis ce qui peut se passer dans les prisons. Donc il y a des choses qui se croisent et qui sont peut-être difficiles à expliquer dans la construction d'un être humain, qui ne sont pas excusables. C'est pour ça que je disais c'est et c'était. Maintenant, moi j'ai toujours la revendication de cette philosophie là peu importe qui l'a donnée, parce que ça ne lui appartient pas à lui. C'est tous les membres de cette communauté du hip-hop qui défendent des valeurs et qui sont des valeurs très positives. À qui appartiennent aujourd'hui ce mouvement? Il n'appartient pas à une tête en particulier. Le seul problème, c'est que cette tête était un peu la locomotive et qu'à l'époque, quand ils faisaient des disques avec UB40, James Bond et tout ça dans les années 80, Arthur Baker avec Planet Rock et tout ça, quand t'as une star qui porte un mouvement, le mouvement, il est beaucoup plus,
il est plus fort.
Ouais. Aujourd'hui, la star est complètement déchue et le mouvement, je dirais, c'est un peu une vieille histoire de Jedi. Mais n'empêche que j'applique toujours ça, même encore au quotidien aujourd'hui, je fais pas de prosélytisme, mais si les gens, des fois, sont intéressés, il y a plusieurs niveaux aujourd'hui dans notre musique. Il y a le rap, qui est une composante du hip-hop, et enfin la Zulu Nation gère un peu ce truc-là, qui s'intéresse un petit peu à ça, en dehors de la personnalité très controversée de son ancien leader, parce qu'il n'est plus leader, mais c'était quelque chose d'intéressant, et en tout cas ça a permis à une génération de mecs comme Cher dans Get Busy, même Joey se revendiquer, Cut Killer était, et parce qu'on l'est toujours, de la Zulu Nation et tout ça, ça nous a permis à nous d'essayer d'avancer.
Ouais,
tu vois, quand tu disais
grandir,
tout à l'heure, voilà, les battles, c'était une compétition saine, c'est-à-dire, ah, t'as un disque, moi j'ai ce remix là, toi t'as celui-là, tac, et on montait, et ça montait sans arrêt, et sans jamais de violence.
Non.
C'était à qui mieux, tout le temps. Le meilleur DJ, le meilleur danseur, le meilleur graffeur, le meilleur rappeur, le meilleur. Et le meilleur tuait l'ancien qui revenait sur le nouveau, et comme ça, ça te donnait une dynamique et de l'excellence.
Ça donne un mouvement dynamique, voilà. Comme tu dis. Ouais.
Exactement. Donc voilà ce que c'était que la Zulu Nation.
C'est pour ça qu'on parle de battle dans le ping-pong, parce que c'est ça le truc. L'idée, c'est de dire, tiens, tu connaissais pas ce truc-là, bah,
bien
tiens,
sûr,
je fais
la battle, c'est pas pour écraser l'autre, c'est juste pour faire avancer le truc.
Exactement.
Complètement.
C'est exactement pour que les auditeurs se disent, ah putain, je crois que je connais ce truc-là, mais c'est vachement bien. Et là, on donne exactement les références, les gens peuvent le retrouver, le coûter en streaming comme ils veulent. C'est ça l'esprit, et on se revendique de rien du tout.
Ce n'est que de la musique, nous n'avons pas sauvé de vie hier soir.
Non, bah on aimerait bien, mais
c'est une forme d'amour, la musique.
Bien sûr.
Bon, je voulais vous faire écouter un Zané. Je vais prendre 3 minutes 30 d'antenne pour qu'on resitue. Et puis parce que ça a été un groupe important pour Philippe Thorne et moi-même. Ouais. Et je trouve que voilà, c'était bien de. DJ, please, pick up your phone. I'm on the request line. C'est pas Mister DJ, mais c'est aussi bien. The request line. Zané. Faut pas dire Zané, ça s'écrit Z-H-A-N-E, faut dire Zané. Le Radio Club, c'est aussi ça. Ça groove bien, hein. Franchement, ça groove bien pour un dimanche après-midi. Philippe Thorne, DJ LBR et moi-même Arthur Leg. Radio Club, hashtag en direct de la Chambre de Bonne depuis
la place Vendôme.
À Paris, on est avec DJ LBR. On parle un peu avec lui depuis le début de l'émission. Aujourd'hui, on va faire un petit raccourci, mais aujourd'hui, t'en es où? Qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi? Raconte-nous tout.
Eh ben écoute, je fais de la prod et DJ toujours. On, je travaille avec avec Mezrock, DJ Will, DJ Livou pour des soirées qui s'appellent les Naughty Didi au Palais de Tokyo. On était aux Étoiles aussi. Je fais 3 ou 4 fois dans l'année aussi le Loft Metropolis, plus plein de petites soirées après à gauche à droite. Et puis de la prod où on essaye de faire de la musique et de se faire un peu entendre et d'être suivi par les DJ et tout ça, quoi, d'essayer d'avoir des petits trucs un peu sympas, quoi. Voilà, donc je continue toujours avec moins de tournées, moins de, parce que c'est moi qui le veux, honnêtement.
Ouais.
Non, mais c'est pas que pour l'instant j'ai des demandes, mais c'est fatigant. Et puis je peux pas tout faire. Donc quand t'es fatigué, tu peux plus composer. Si tu composes, faut que tu sois frais, ouais. Et voilà et tout ça. Et
disponible.
Voilà, tu peux pas.
Il faut
pas...
surtout un truc, faut que t'aies envie de le faire.
Voilà, exactement. Donc quand c'est que du kiff et je fais ce que j'aime, je sors des titres très 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 spé avec un label qui s'appelle Flex Up Crew en Italie.
Quand tu dis spé, c'est quoi ?
C'est Mumbaton. C'est vraiment une dérive électronique du dancehall. Du raga, c'est un peu tout ce qui est Major Lazer, DJ Snake, DJ LBR, donc j'en fais partie quand même. Mmh. Et j'en fais depuis la création. Et voilà, donc c'est un peu le courant musical que j'aime bien. Il y a moins rap, moins hip-hop et tout ça, parce que je trouve que ça a évolué d'une façon qui me parlait un petit peu moins ces derniers temps, même si j'aime toujours et que je continue à suivre à 100% tout et en jouer. Mais ma sensibilité, elle est, parce que je trouve que le dancehall mêlé d'électronique fait vraiment danser les gens. Il y a quelque chose de très sexy et, pour les filles et tout ça. Et voilà, c'est ce que
ça marche.
Et ça
fait bouger le cul des filles, et
exactement.
Ça, on aime bien.
Bah, c'est la seule chose qui compte.
C'est un peu Philippe Tornu, il aime ça aussi.
Bah, ouais, le popotin mix, moi je vois bien.
Tant qu'à faire.
Bah, oui.
Bah, alors, il n'y a que ça de vrai.
Pump it up. Le titre qui vient de sortir, bah, c'est si vous n'avez pas été à l'écoute du Radio Club, bah, tant pis pour vous, vous avez loupé. Mais en tout cas, il y a un titre qui est sorti il y a quoi
Quelques mois, mais enfin quelques grosses semaines, ouais, Young and Alive, et qui est en train de vivre sa vie, et je lui souhaite le meilleur, parce que moi j'ai plus de. Maintenant que je l'ai fait, j'ai plus de contrôle dessus. Donc c'est signé sur un label maintenant en Allemagne, et c'était signé en France, c'est reparti en Allemagne pour le monde, donc c'est signé pour le monde. Et c'est le label de Robin Schulz, de Don Diablo, Alex Well, toute la clique et tout ça.
Et donc, on l'entendra avant la fin de cette émission, je pense.
Bah, en dernier, comme ça.
En dernier.
Atlas Bonnet.
Le bonus beat.
Ouais,
donc.
Voilà, allez.
Et c'est pas un gros mot. Alors, le bonus beat, pour ceux qui savent pas, c'est le dernier disque et il est choisi par l'invité.
Voilà.
Voilà. Bon, bah merci, DJ LBR. J'avais une dédicace à faire, c'est notre community manager, Maxime, qu'on embrasse d'ailleurs, qu'on remercie.
Bah, bisous. Hein. Salut Maxime, merci.
Il m'a demandé de faire une dédicace pour les Bee Gees en direct de Nice avec Pierre-Emmanuel, je dis pas son nom de famille, mais voilà. Il m'a dit, tu dis ça, que ça vient de la régie. Eh bien, donc, ça vient de la régie. Voilà. Dédicace pour les Bee Gees en direct de Nice.
Et Big Ali qui nous envoie un petit message, puisqu'il écoute l'émission et qui nous disait, c'est et c'est vrai, j'avais complètement zappé, c'est The Ramp Daylight pour le sample de Tribe Called Quest.
Ah. Voilà. Merci à Big Ali qui est
dans le train et qui écoute.
Qui reste à l'écoute, comme ça, on pourra lui demander quelques
informations.
Joignable.
On l'embrasse bien. Je voudrais, c'est le moment, hein. Si tu veux embrasser quelqu'un, tu le dis.
Non, moi
je voudrais qu'on embrasse aussi tous les gens qui sont venus dans le Radio Club, à commencer par Nagra, qui est un grand pote de Rudy dont tu parlais tout à l'heure.
Si tu vas par là, oui.
C'est Nagra qui a été le premier invité du Radio Club.
Ah ouais, génial.
Ouais. Ensuite, il y a eu notre ami Cocteau. Voilà.
Que je connais aussi un peu.
Mais que tu connais, je crois que tes bureaux sont juste en face. Quand on a fait l'émission avec lui, tu étais là.
Ensuite, on a eu Eric Kaufmann.
On a eu Jean-Marie K le mois dernier. Ouais. Et on finit cette saison avec toi, DJ LBR. Merci.
Bonne brochette
pour cette histoire.
Ouais, une bonne brochette de DJ, de mecs qui connaissent un peu la musique. Et c'est pour ça qu'on vous aime. Et aussi parce que vous êtes des mecs cool. Merci, DJ LBR.
Leradioclub.com.
Le Radio Club. Is brought to you by popup-radio.com.